Dieu vivant, toi qui parles encore aujourd'hui à ton peuple, nous venons à toi avec humilité, désireux d'entendre ta voix au travers des Écritures. Ouvre nos esprits à ta sagesse, éclaire nos pensées par ton Esprit Saint et dispose nos cœurs à recevoir ta parole comme une semence de vie capable de transformer nos regards, nos choix et nos engagements. Par Jésus-Christ, la parole faite chair, nous te prions. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Amos, qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous lisons dans Amos au chapitre 6 une sélection de versets. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité dans la montagne de Samarie, assez grands de la première des nations auprès desquelles va la communauté d'Israël. Passez à Calné et regardez. Allez de là jusqu'à Hamat, la grande, puis descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes? Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. C'est pourquoi ils partiront en exil, en tête des prisonniers, et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi je ferai surgir contre vous, communauté d'Israël, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamat jusqu'au torrent du désert, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. Notre deuxième lecture se trouve dans l'épître de Paul à Timothée, au chapitre 6. Timothée, fils spirituel de Paul, reçoit des enseignements sur la vie de chrétiens afin d'édifier les communautés. Le sujet de notre passage concerne l'argent. Nous lisons dans 1 Timothée 6, les versets 6 à 10 et 17 à 19. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien en apporter, emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise du trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle.
Notre dernière lecture se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Jésus raconte une parabole, celle du riche et de Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. » Depuis, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit : « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.
Frères et sœurs, nos trois textes du jour ont en commun la question de l'argent, de la puissance, de la richesse ou des richesses. Et je vais porter ma prédication plus précisément sur le texte de l'Évangile que nous avons entendu chez Luc, dont je vais vous proposer une lecture déroulante. On va le relire ensemble et puis essayer de s'imprégner, d'en dégager le message spirituel pour nous. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Autre traduction, qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le tableau est posé. Voilà la situation de cette parabole. Je vous rappelle qu'une parabole est faite pour frapper les esprits, qu'il ne faut pas tout de suite y chercher, des comparaisons trop rapides. Elle nous dit quelque chose de la logique du royaume de Dieu. Voilà deux hommes, donc, que tout sépare. Deux mondes qui ne se rencontrent absolument pas. Et pourtant, qui sont côte à côte, qui cohabitent dans le même secteur géographique. Nous avons un riche qui est nommé en premier, un riche qui s'habillait des plus fines étoffes, qui avait des vêtements de luxe, et qui faisait la fête tous les jours. Insistons sur le « tous les jours ». Donc quel genre de vie cette personne pouvait-elle bien avoir quelque part On devine déjà une certaine oisiveté à se noyer dans la fête et le luxe. Et voilà un autre homme, un pauvre, qui lui n'a pour seule et unique vie que d'être couché devant le portail du riche et de subir ses ulcères. Donc, imaginons la scène. Et qui a faim, qui aurait bien aimé se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Ça nous rappelle cette femme syrophénicienne qui veut bien ramasser les miettes qui tombent sous la table en parlant à Jésus. Et pourtant, qui n'a rien d'autre que des chiens qui viennent lui lécher ses ulcères. Donc, on est un petit peu saisi quand même de ce tableau ultra contrasté entre deux vies, deux destins de vie qui semblent aussi éloignés. Il est intéressant de noter un détail, c'est que notre riche, il n'a pas de nom dans notre parabole, tandis que le pauvre en a. D'emblée, on est projeté dans quelque chose qui va nous guider dans notre réflexion pour comprendre la logique du royaume de Dieu. Parce que d'habitude, dans notre monde, les riches ont un nom, les pauvres sont anonymes, parfois on ne sait même pas qu'ils existent. Et ici, d'emblée, on est projeté dans un récit où le pauvre a un nom. Alors ce n'est pas le Lazare, a priori, que l'on connaît, le seul autre Lazare des évangiles que nous connaissons dans l'évangile de Jean, qui est le frère de Marthe et de Marie. Il s'agit d'un autre Lazare, mais dont le nom signifie, Dieu vient en aide. C'est un nom hébreu qui signifie « Dieu vient en aide » ou « Dieu secourt », »,« Dieu a secouru ». Alors, est-ce que c'est de l'ironie pour nous dire, vous savez que les noms juifs ont plusieurs sens, les noms et les mots. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'ironique en disant ben, « Dieu vient en aide » du point de vue du riche, peut-être que c'était assez risible. Visiblement, il est laissé à l'abandon. Est-ce que c'est un nom programmatique parce que dans la suite du récit et dans un au-delà qui n'est pas ici-bas, effectivement, Dieu l'aura secouru? Ou est-ce que ça veut aussi nous dire que Dieu lui vient en aide en lui mettant un riche sur son chemin et que le riche, lui, ne l'a pas compris ni saisi? Vous voyez, on peut réfléchir à ce nom de Lazare. Toujours est-il que ce qu'on nous dit là, c'est que l'un mène une vie de bombance joyeuse et repue, tandis que l'autre souffre profondément, que ce soit financièrement, que ce soit relationnellement, parce qu'il a d'autres compagnies que les chiens. Quand on sait dans l'univers juif que les chiens ne sont pas des gentils animaux de compagnie, mais sont plutôt regardés comme des sales bêtes impures, voilà le tableau. Alors, d'emblée, ici, on peut déjà se dire, frères et sœurs, que visiblement, il n'y a pas que l'amour qui rend aveugle et sourd, il y a aussi l'argent, puisque ce riche ne voit pas, n'entend pas, ne saisit pas ce qui se passe devant sa porte. On peut imaginer qu'il enjambe ce pauvre à chaque fois qu'il sort de chez lui. Nous continuons notre lecture. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Alors là, tout d'un coup, ces deux univers que tout sépare se retrouvent sur un destin commun, la mort. Enfin, quelque chose qu'ils partagent de leur humanité profonde. Nous sommes tous voués à mourir de notre mort biologique ici-bas. C'est le même sort que nous partageons avec tous les humains, que nous soyons d'un côté ou de l'autre de la barrière. Alors on peut imaginer l'enterrement du riche, digne de son statut, je ne sais pas dans quel lieu se faisaient les enterrements à l'époque, mais en tout cas dans un lieu rempli de monde. Dommage, certainement. Et puis le pauvre, on ne nous dit rien. Il semble qu'il n'a même pas été enterré, puisque le texte nous dit qu'il a directement été emmené auprès d'Abraham. Alors Abraham, en tant que père des croyants, le patriarche, et une figure, en fait, aussi, dans l'univers biblique, du protecteur des justes. On sent tout de suite, à ce stade du récit, la logique du royaume que Luc nous faisait déjà entendre dans ses béatitudes au chapitre 6. « Heureux êtes-vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Ce passage nous fait aussi du bien si nous sommes du côté de ceux qui souffrent, parce qu'il nous dit clairement que ce n'est pas parce qu'on souffre de façon extrême que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu nous a oubliés. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et nos souffrances ici-bas ne disent rien de la fidélité et de l'amour de Dieu à notre égard. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Je regarde jusqu'où est-ce que je voulais aller, donc jusque-là. On nous dit, Jésus nous donne ici une imagerie de ce qu'on aura gardé comme image de l'enfer, ce lieu où on rôtit, où on a chaud, où on n'en peut plus, et où on rêve d'oasis et d'eau fraîche. Il nous est dit que le pauvre est dans une grande souffrance. Les choses s'inversent. Le riche est dans une grande souffrance. Et ce qui me fait sourire, en fait, en lisant, je ne sais pas si vous vous relevez, mais on reste ce qu'on est, même dans l'au-delà, il continue à se comporter en riche, qui donne des ordres, enfin, demande Abraham, demande à ce pauvre de venir me servir quelque part, parce que je souffre trop. On voit bien que nous avons du mal à rentrer à comprendre la profondeur inversée de la logique de Dieu, qu'il y a un temps et que voilà. Alors, ce riche, quand il était donc dans sa vie repue et comment dire abondante, dans l'abondance, a-t-il seulement pensé lui à tremper son doigt dans l'eau ou dans un plat pour le faire goûter aux pauvres? Toujours est-il que tout d'un coup, c'est son désir. Vous voyez la difficulté que ce riche a à se décentrer de lui-même, même jusque dans le monde d'après. Alors, il faut être tout de suite très attentif à ce stade, c'est que ce n'est pas la richesse que Dieu condamne. On n'est pas en train de dire « tous les riches iront rôtir en enfer ». Absolument pas, d'ailleurs. Il nous est dit clairement non à cette pensée qui peut nous tenter, parce qu'Abraham, souvenons-nous, frères et sœurs, qu'Abraham était un homme très riche dans sa vie terrestre. Abraham était un homme qui avait de nombreux troupeaux de bétail, petits et grands, il avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Il a dû gérer sa richesse et il se retrouve donc du bon côté dans le royaume des cieux. Donc, soyons très prudents à ne pas faire de ce texte une plaidoirie contre la richesse en elle-même. C'est très important. On peut être riche ici-bas et aller dans le royaume des cieux, comme nous pouvons être pauvres ici-bas, et aussi aller en enfer avec tous les guillemets que cela comporte. Ce n'est pas ça la question. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous, ne puisse pas le faire. Souviens-toi. Abraham commence par lui répondre « Souviens-toi ». T'as la mémoire courte quand même, hein, et ça c'est notre condition humaine. Nous sommes de nature oublieuse. Quand tout va bien, tout va bien. Mais surtout, je pense que si on devait ramasser ce que répond Abraham à ce riche, on pourrait dire par deux mots « trop tard ». Trop tard, tu as eu le temps. Tu as eu Lazare devant toi tous les jours et tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas entendu. Ce n'est plus l'heure maintenant. Un peu dur pour nous d'entendre ça, mais l'Évangile nous appelle à conscientiser la brièveté de notre vie sur cette terre. Quel que soit ce qui nous étonnait de vivre ici, souffrance, malheur, jouissance, pénurie, notre vie est brève et Dieu nous dit tout ce que l'on a à savoir ici-bas. Alors, évidemment, nous comprenons le renversement, la logique du royaume. Trois chapitres plus tôt, Jésus disait dans Luc 13, verset 30, « Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. » Les hiérarchies humaines ne sont pas éternelles. Et les critères du monde ne sont pas les critères de Dieu. En Dieu, les choses sont souvent inversées. C'est ce à quoi nous sommes appelés, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à comprendre, à prendre cette distance avec nos propres vies, nos propres existences, en nous disant « aujourd'hui je suis première, demain je peux être dernière ». Inversement, « aujourd'hui je suis dernière, mais demain je peux être première ». Dans cette vie, comme dans la mort, cela nous ramène aussi à ce texte, ce grand texte sur le jugement dernier qui nous effraie beaucoup, mais que nous devons entendre, qui, je trouve, répond à ce texte. Alors, il est chez Matthieu, à la fin du chapitre 25. Vous savez, la parabole des moutons et des chèvres, des brebis et des boucs. Et où Jésus dit, il y en aura qui seront à ma gauche, il y en aura qui seront à ma droite. Et ça se termine par... Toutes les fois que vous avez fait cela, donc aller rendre visite aux prisonniers, donner à manger aux pauvres, etc., ces bonnes et belles œuvres qui font que l'on est attentif aux prochains, aux petits, Jésus dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et il termine ainsi, et il nous laisse avec ça, et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Voyez la sévérité de l'Évangile qui nous interpelle, qui nous rend responsables de notre éthique, ici-bas. Que faisons-nous de nos frères et de nos sœurs ? Le riche dit « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Trop tard, encore une fois. Vous avez eu Moïse et les prophètes. Ce riche est visiblement juif, puisqu'il appelle Abraham père. Il a donc eu une instruction religieuse, il a entendu, mais il a été sourd. Intéressant aussi de voir que pour une fois, le riche pense à quelqu'un d'autre que lui-même, il pense à ses frères. Il y a un peu de bonté en lui de dire « mais je ne voudrais pas qu'ils atterrissent au même endroit que moi, s'il est encore temps de les préserver. » Eh bien, Abraham lui dit « ben, ils ont la loi et les prophètes, libre à eux de les écouter. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, comme nous dit le Seigneur. Et encore une fois, le problème ici n'est pas l'argent, mais c'est l'argent en tant qu'il isole des autres et qu'il rend sourd et aveugle. Fin de notre parabole, le riche dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Alors, on sourit parce qu'il marchande, il connaît Abraham qui a marchandé avec Dieu, donc peut-être qu'il se permet lui-même aussi ce marchandage, mais Abraham lui dit, pour clôturer la conversation, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite, même si quelqu'un revenait d'entre les morts. » Alors, le riche, il a besoin de plus que de la loi et des prophètes. Comme nous, notre monde a besoin de plus que de nos cultes traditionnels et poussiéreux, que d'une vieille Bible qui a 2000 ans et qui nous raconte des vieilles histoires. Notre monde, et c'est l'humanité, dans son âme depuis toujours, a besoin d'expériences, de sensationnels. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va chercher Dieu quand on a une fibre spirituelle? Je ne sais pas, la nécromancie, le développement personnel, toute forme d'ésotérisme qui sont ultra présents dans notre monde, ayons conscience de ça. Tout un tas de choses, alors que nous avons la loi et les prophètes. Et plus que ça, nous avons Jésus-Christ qui est revenu d'entre les morts. Pour autant, cela suffit-il à convaincre, à croire, à faire que l'on se tourne vers Dieu? C'est important que nous ayons conscience que l'extraordinaire de Dieu se révèle dans l'ordinaire, dans les choses qui nous paraissent évidentes, et nous n'avons pas à aller chercher toujours d'autres signes, d'autres expériences. Dieu nous parle, dimanche après dimanche au culte, dans nos lectures quotidiennes de la Bible, dans les situations que nous vivons, dans notre travail, dans nos relations. Dieu nous parle. Et nous avons toujours un frère ou une sœur pour nous rappeler une parole. Ou nous avons toujours une mère ou un père pour nous rappeler, d'une certaine façon, la loi et les prophètes, le bon et le bien. Et ça nous inscrit dans ce rôle, à notre tour aussi, de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à qui veut bien entendre. Puisque c'est dans cette fidélité que Dieu nous attend. C'est pour ça que je rends hommage aux monitrices du culte de l'enfance qui l'ont été ou qui le sont encore, qui fidèlement racontent les histoires de la Bible aux enfants comme un trésor. Ils ont ça. Ils ne sont pas pauvres. Ils pourront en faire leur miel au moment venu. Quel est notre état des lieux aujourd'hui? Jésus est revenu d'entre les morts. Pour autant, le monde entier est-il chrétien? La foi, c'est par elle seule que nous pouvons accepter et comprendre Jésus et le royaume, et non pas la vue. Nous pourrions voir, expérimenter les plus extraordinaires des choses. Ce n'est pas forcément pour ça que nous aimerions Dieu, que nous comprendrions la profondeur de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, la grâce infinie. Et ça me fait penser au thème de notre camp de marche, puisque nous sommes plusieurs à partir dimanche prochain au camp de marche avec ce thème qui est un verset de 2 Corinthiens 5 qui dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. Que » Que les richesses, que notre vie ne soit pas, frères et sœurs, un obstacle à voir Dieu, à rentrer dans la logique de son royaume, d'amour, de soin à l'autre, de compréhension, que tout passe et que ce que j'ai aujourd'hui peut m'être retiré demain et que ce que Dieu attend de moi c'est de vivre avec largesse et générosité. Alors oui, c'est parfois difficile de comprendre qu'on ne peut pas persuader quelqu'un. La foi n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Combien sont-ils ces parents qui ont fidèlement essayé de transmettre la foi à leurs enfants et qui constatent que leurs enfants sont totalement éloignés de l'Église? Ça ne dépend pas de nous, parce que ce n'est pas que des choses extérieures qui vont faire qu'un cœur se donne à Dieu. Il y a la disposition intérieure qui est la nôtre, qui ouvre notre cœur comme une porte pour que Dieu y entre, pour décider de l'accueillir, de lui faire confiance et de l'aimer et de vivre de son message. Tout à l'heure, quand nous prendrons la Sainte Cène, nous entendrons les paroles d'invitation, Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Dieu frappe à la porte par la loi, par les prophètes, par Jésus-Christ vivant et ressuscité, par la communauté qui s'interpelle, qui témoigne d'un amour et d'une fidélité. Mais à chacun, la liberté d'entendre, de voir et de vivre et d'accueillir le Seigneur. Alors que retenons-nous, frères et sœurs ? Je pense que nous sommes invités ce matin par ce texte à prendre au sérieux la volonté de Dieu ici et maintenant dans notre vie sur cette terre. J'ai fait un commentaire pour ceux qui lisent Parole pour tous cette semaine. Décidément, ce texte est vraiment dans les lectionnaires du moment. J'ai intitulé le commentaire de ce texte sur « L'éternité commence maintenant ». Oui, nous savons en tant que chrétiens que l'éternité commence maintenant, que ce n'est pas quelque chose d'utopique au-delà. C'est dès aujourd'hui que nous sommes déjà dans la logique de l'éternité de Dieu, dans la logique de la grâce, dans la logique du royaume, où Dieu nous a montré lui-même ce que c'est que l'hospitalité, le soin aux pauvres, le souci des faibles, et qui nous appelle à nous aussi vivre de cette éthique-là, de cet éthos extraordinaire du chrétien désintéressé, qui aime, qui voit, qui est présent au monde et aux choses, auprès ou au loin. Alors, que nous ayons, frères et sœurs, le souci d'une vie tournée entièrement vers les autres, en sachant que nous n'en serons pas plus pauvres, mais au contraire, enrichis bien plus, dès maintenant et pour l'éternité. Et nous allons relire la fin de la première épître à Timothée que nous avons entendue, l'interpellation qui nous dit aux riches de ce monde, alors aux riches d'argent, mais aussi d'autres choses, de relations, à nous de mettre tout ce que nous savons en quoi consistent les richesses dans ce mot, aux riches de ce monde ordonnent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. C'est Dieu qui donne, ne l'oublions jamais. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide pour vivre dans la joyeuse liberté des enfants de Dieu. Cette parole. Amen.